9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et oui, AVS, ça veut dire à votre santé, et on en prend soin de votre santé tous les jours entre 9h et 10h sur Beurre FM. Mon invité aujourd'hui est Isabelle Célestin Lopineau, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, directrice de l'Institut français des pratiques psychocorporelles. Voilà, je vois. Ça s'adresse à des patients qui présentent des pathologies diverses. En 2012, vous avez créé le DU d'hypnose et d'amnésie à l'Université de Paris-Sud.
D'hypnose et d'anesthésie.
D'anesthésie, je ne vais pas y arriver. Anesthésie, c'est ça, oui. Et vous avez fondé la revue en ligne Big Bang Therapy. Voilà, qu'on trouve sur bigbandtherapy.com, le magazine de la médecine et de la santé intégrative. Vous publiez Éloge du vivant, prendre sa santé en main avec la médecine intégrative, Sherper Collins. À noter que votre livre est également et propose de nombreux exercices pour ceux qui nous écoutent, donc ça c'est important, puisque vous pouvez pratiquer à la maison. Et j'ai retenu de votre livre une phrase, l'œil de l'étranger ne voit que ce qu'il sait. Dans quelles conditions est-ce qu'on vous dit ça?
Alors ça, c'est un proverbe ghanéen qui m'a beaucoup marqué quand j'ai travaillé en Afrique, parce que c'est très très juste. Quand on voyage, on a tendance à chercher peut-être des choses que l'on connaît et à ne voir que ce que l'on sait. Et c'est l'altérité, c'est le fait de rencontrer des personnes d'autres cultures qui nous ouvrent finalement à une autre vision du monde. Et c'est la même chose en thérapie. On est formé, on va apprendre différentes théories, différentes pratiques, et on pourrait avoir tendance à ne voir que ce que l'on sait en rencontrant un patient. Et finalement, toutes ces pratiques nous amènent à rencontrer le patient dans ce qu'il est, et non pas dans ce qu'on peut projeter sur lui. C'est en cela que j'ai trouvé magnifique.
Au départ, vous étiez un peu comme ça. C'est avec le temps que vous avez peut-être changé votre regard sur les choses.
Oui, je pense que quand on se forme, moi je suis psychologue de formation, quand on se forme, il y a tout un temps de formation. Et tout le travail clinique, après, est un travail de déformation pour vraiment rencontrer l'autre dans ce qu'il est. Mais on a besoin de cette formation et de ce cadre pour pouvoir penser les choses et ensuite pouvoir rencontrer la singularité de chacun.
Bon, est-ce que ce matin vous avez fait circuler une cuillère d'huile de sésame ou de coco dans votre bouche ?
Tous les matins pour avoir les paroles les plus douces
possibles. C'est vrai. C'est
oui, c'est vrai.
C'était quoi ce matin?
C'était l'huile de sésame. D'accord. Ce matin.
Et quel est l'objectif de ce rite, ou en tout cas de cette habitude?
Ce rite, c'est un rite que j'ai découvert en Inde, dans la pratique de l'Ayurveda, de la médecine indienne. Et j'ai trouvé magnifique, c'est un clin d'œil finalement, chaque matin. L'idée, c'est lorsque je prends cette cuillère, ou quand les personnes qui pratiquent l'Ayurveda prennent cette cuillère de sésame, de ressentir l'odeur du sésame et aussi la douceur, et que les premières paroles soient aussi douces que l'huile qu'on a sentie dans la bouche. Donc c'est un clin d'œil pour se recentrer et se remettre dans un équilibre où on peut démarrer de cette façon-là la journée.
On va parler de votre livre et de la médecine intégrative. Déjà, quand on parle de médecine intégrative, c'est une expression qui est plutôt récente. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par là?
Alors, la médecine intégrative, c'est intégrer le meilleur de la médecine allopathique, conventionnelle, et le meilleur des pratiques complémentaires, celles qui sont évaluées scientifiquement sur le plan de l'efficacité et de la sécurité. Donc, effectivement, c'est un terme... Alors, récent.
Les Américains sont en avance, en tout cas.
Voilà, les Américains l'utilisent depuis plusieurs années. Ils ont même mis en place dans les structures gouvernementales des centres pour pouvoir utiliser, évaluer ces pratiques complémentaires dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus, quand on parle d'intégratif, c'est vraiment l'idée d'intégrer ces pratiques complémentaires et la médecine allopathique. On n'est pas du tout dans une démarche alternative où ce serait à la place.
On se tend la main et on travaille... main dans la main. Donc, dans ce cas, la médecine moderne ou allopathique, enfin, en tout cas, la médecine qu'on pratique aujourd'hui reste le premier recours. C'est le pilier du traitement auquel on ajoute quelques pratiques en fonction du patient.
C'est ça, parce qu'on a la chance d'avoir une médecine qui est puissante dans de nombreux domaines. Donc on utilise effectivement toute l'efficacité de cette médecine. Et puis on voit bien que lorsque une pathologie devient chronique, c'est là où ça peut être très intéressant, souvent, d'associer une pratique
complémentaire, voilà. Comme on dit, et non pas à la place de...
Exactement, complémentaire et non pas alternatif, et c'est pour ça qu'on parle d'intégratif.
Donc vous avez appliqué une démarche scientifique à la recherche de toutes ces médecines complémentaires. C'était ça votre démarche dès le départ. C'est de se dire, finalement, j'aimerais juste comprendre pourquoi ça marche.
Oui, c'est ça. À la base, ça vient d'une question clinique. C'est-à-dire, j'ai rencontré des patients quand je travaillais dans différents hôpitaux, notamment à l'hôpital Trousseau, qui venaient à l'hôpital, mais qui utilisaient aussi différentes pratiques issues des médecines traditionnelles ou des médecines, des pratiques complémentaires. C'est ça qui m'a interrogée tout d'abord, parce qu'il y avait une certaine efficacité et j'avais remarqué que
c'était... Pas une certaine efficacité. Par exemple, vous prenez le cas d'un gamin qui était couvert d'eczéma, qui est allé voir ce qu'on appelle un coupeur de feu. Et l'eczéma avait disparu. Donc à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, comment ça fonctionne ?
Ben c'est ça, ça pose question, qu'est-ce qui est vraiment au cœur du soin ? Parce que là, on rentre dans une expérience que nous ne comprenons pas forcément. Donc ça pousse à réfléchir, mais j'ai pu voir effectivement une certaine efficacité parce que ça marchait avec ces patients-là, avec d'autres, pas forcément, c'est-à-dire que c'est pas 100% d'efficacité, mais il y avait une efficacité pour les barreurs de feu, même certains qui allaient voir parfois d'autres praticiens de ce type-là. Et donc c'est ça d'abord qui m'a poussée à réfléchir, qu'est-ce qui est au cœur du soin ? La force de la relation, qu'est-ce qui va être utilisé dans ces pratiques de guérisseur, qu'est-ce qui marche dans le yoga, dans le qigong, dans l'hypnose ? Et ça m'a ouvert toute cette réflexion à me former à des pratiques comme la pratique de l'hypnose dans un premier temps.
Oui, sauf que vous êtes allée sur place.
Voilà, moi je suis allée sur
place. Vous êtes allée sur place, vous êtes allée rencontrer les gens. Vous avez commencé par rencontrer André Lindenberger, alias l'Hindou. Qu'est-ce que vous avez appris à son contact ?
Bah, ça a été une rencontre déjà humaine incroyable, parce que c'est une sacrée personnalité. Ce que j'ai rencontré, c'était la force de la présence du praticien. C'est quelqu'un qui est là quand il soigne, qui est vraiment présent, qui va utiliser toutes les pratiques traditionnelles qu'il peut connaître pour se mettre au service du patient. Et ce que j'ai pu voir, j'étais d'abord assez critique. Je garde toujours mon esprit critique, mais c'est vrai que quand j'y suis allée, j'étais assez critique. Les rebouteux, les barreurs de feu... Mais ce que j'ai pu constater, c'était une salle d'attente bondée. J'attendais dans la salle d'attente avec les autres personnes. Je voyais rentrer les gens courbés, douloureux, et je les voyais ressortir en pleine forme.
Et là, vous vous dites, il a fait venir tous ses cousins.
Voilà, je me suis dit, ses copains, ses cousins, c'est pas possible. Et je lui ai demandé l'autorisation de venir assister. Et puis j'ai pu voir, effectivement, et suivre certains de ses patients qui venaient pour des problèmes de douleurs chroniques, de dos bloqués. Et puis moi, ce que j'ai apprécié chez lui, c'est quelqu'un qui utilise l'irrationnel, mais qui fonctionne aussi avec le rationnel. Il travaille main dans la main avec les médecins du coin, de Genève ou de...
Il est intégratif
complètement.
C'est intéressant de savoir comment il est devenu, en fait, lui.
C'est ça, c'est le
parcours. Comment on dit alors ? C'est un quoi, lui ? C'est un barreur de feu ?
C'est un guérisseur, barreur de feu, mais guérisseur aussi.
C'est pas un magnétiseur, enfin, ça.
Certains pourraient nommer, oui, c'est toute cette terminologie, magnétiseur, guérisseur, barreur de feu.
Alors lui, c'est un fils de la campagne, au départ.
Voilà, c'est quelqu'un qui est cultivateur, à la base. Et puis c'est intéressant de voir le parcours, comme le parcours des autres personnes qui sont dans cette dimension de guérison, de guérisseur. Il raconte très bien qu'il a eu une maladie et c'est ça en fait qui l'a amené à chercher, à faire un pas de côté et puis à découvrir qu'il avait un don avec une personne qui lui a transmis le don. Enfin, là-bas ils appellent ça le secret, et quelqu'un qui lui a transmis le secret pour pouvoir soigner et donc développer toute une pratique qui paraît très curieuse quand on la voit et qui a pourtant une certaine efficacité.
Et quand on habite dans les villages ou dans les bourgs, parfois on se refile ces numéros sous le manteau, hein. On le sait d'ailleurs.
Voilà, dans les villages, mais aussi j'ai bien vu là-bas des gens des villes qui venaient, même des médecins qui venaient, parce que on voit bien que pour des brûlures ou par exemple des patients qui sont en radiothérapie et qui font appel à ces barreurs de feu ou à ces guérisseurs, il peut y avoir une amélioration, il peut y avoir une accélération de la cicatrisation, il peut y avoir une protection, enfin les gens se sentent mieux, alors du coup ils utilisent.
D'accord. Et vous, avec le recul qui est le vôtre et la pratique qui est la vôtre, est-ce que vous avez compris comment ça fonctionnait, ça, par exemple ?
Alors, j'y réfléchis en mettant en perspective différentes pratiques, les guérisseurs de nos campagnes, mais aussi j'ai travaillé avec des chamans en Sibérie, ou les pratiques ayurvédiques ou tibétaines.
Vous allez voir les vaudous aussi au Bénin.
Voilà, les vaudous au Bénin, en choisissant des praticiens qui étaient dans une intention de guérison, parce que c'est très important justement l'intention du praticien, du thérapeute ou du guérisseur, l'intention de guérison, et qui n'étaient pas des envoûteurs, qui désenvoûtaient, mais qui n'étaient pas des envoûteurs. Donc une intention vraiment de prendre soin de l'autre. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans toutes ces pratiques, c'est de constater qu'il y a tout un travail de remise en lien, en fait, du patient, de remise en lien avec la nature, avec le groupe, avec les autres, avec soi-même, mais d'une autre façon. Et ce qui est aussi passionnant, c'est de voir la force de la présence du praticien. C'est vraiment un travail d'être à être. Et ça, je crois que c'est un ingrédient vraiment...
Donc ce sont des pratiques qui sont toutes...
universelles.
Enracinées dans la terre.
Ce sont des pratiques qui sont enracinées dans le lien à la nature, effectivement. Et ce sont des pratiques qui sont très souvent, très peu d'ailleurs intellectuelles, hein, qui ramènent la personne à une perception sensorielle de sa présence, de son rapport au monde, de son rapport aux autres, et même de sa perception de son propre corps, mais autrement.
Vous racontez comment vous partez en Sibérie pour aller à la rencontre des chamans. Et ce qui est intéressant, c'est que vous racontez que finalement, pendant la période soviétique, c'était interdit la pratique du chamanisme et que les anciens avaient caché leurs secrets.
Oui, c'est ça. Ça a été une découverte pour moi quand je suis arrivée la première fois, de comprendre que le chamanisme renaissait depuis quelques années en Sibérie, parce que sous la période soviétique, il a été considéré, ce chamanisme, sous son caractère plus religieux et non pas sous le caractère de soins.
Donc, alors le chamanisme, pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce que vous le définissez ?
Alors le chamanisme, c'est vraiment une façon d'être en contact avec la nature. À nouveau, les chamans en Sibérie sont à la fois des soignants, ils vont s'occuper des questions sociales du village, des questions spirituelles. Moi, je me suis intéressée à la partie soins, et dans la partie soins, c'est vraiment remettre le patient dans la force de la nature. Si un patient a un problème, c'est qu'il est sorti de son équilibre, de son bon lien avec ce qui l'entoure. Et tout le travail du chaman, c'est de le ramener dans un lien, dans un bon lien avec ce qui l'entourait, avec lui-même.
Vous avez été formée également en médecine chinoise.
Je suis allée voir en Chine comment ça fonctionnait, parce que la médecine chinoise, effectivement, est très développée en Occident, comme pratique complémentaire.
C'est celle qu'on connaissait le plus, hein, finalement.
Voilà, et donc c'était intéressant de voir...
Acupuncture et tout ce qui...
voilà, le massage, tuina également, l'utilisation des plantes. Et ça m'a permis de voir l'importance, par exemple, de la phytothérapie, parce que l'idée, c'est d'aller dans ces cultures, mais de voir après ce que l'on peut réellement penser ou faire avec comme modèle dans notre culture, donc de voir l'importance de la phytothérapie, puis aussi les contre-indications, et de rentrer justement dans cette réflexion plus scientifique, de voir les indications de ces pratiques et aussi les contre-indications.
Il y a la médecine ayurvédique aussi, alors, qui commence à devenir plus à la mode maintenant, aujourd'hui, dont on parle beaucoup plus. Comment est-ce que vous le traduisez, Ayurveda ?
L'Ayurveda, c'est la connaissance et la science de la vie. C'est-à-dire que la médecine ayurvédique, elle est intéressante aussi comme modèle de réflexion, comme modèle pratique, parce que la médecine ayurvédique va traiter le symptôme dans la globalité de la vie du patient, mais aussi activer largement les ressources, la vie du patient. Et ça a été une révélation aussi pour moi dans l'Ayurveda ou dans ces autres pratiques, de me rendre compte que c'était intéressant de traiter le problème, mais en traitant le problème, en même temps, de pouvoir activer les forces, les ressources d'une personne.
Entre le moment où vous vous y intéressez, où vous vous formez, et aujourd'hui, vous voyez quand même le chemin qui a été parcouru et l'accueil qu'elles ont aujourd'hui, et l'écho qu'elles ont aujourd'hui dans la société, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie appétence pour ces médecines complémentaires.
Oui, il y a une vraie appétence. Alors, vous parliez peut-être de mode tout à l'heure. On voit aussi qu'il y a des recherches scientifiques qui vont évaluer ces pratiques, en montrer les indications et les contre-indications. Donc, on peut y aller.
C'est ce que vous donnez dans votre livre aussi, également.
Voilà, un tableau qui permet de mieux choisir, de mieux cerner, parce que il n'y a pas que des indications, il y a aussi des contre-indications. Et ces pratiques, elles ont un succès aussi parce qu'il y a une évolution dans la société. On voit qu'il y a un bond des des pathologies chroniques, hein, dans notre, qui est à peu près, que l'on retrouve à peu près au niveau mondial. Et ces pratiques, elles sont particulièrement adaptées lorsqu'une pathologie devient chronique. Et puis, il y a un deuxième point qui est important. On se rend compte de plus en plus, il y a des pratiques comme l'hypnose, mais aussi d'autres pratiques qui ont montré que ces pratiques ont une utilité aussi dans la relation thérapeutique. Par exemple, dans les soins, si on utilise des pratiques complémentaires, on va apaiser le patient et dans certains cas, lui permettre, en complément des médicaments, de moduler la perception de la douleur.
Nous parlons de la médecine intégrative ce matin avec mon invité Isabelle Célestin Lopineau. Je rappelle que vous...
L'hôpital.
Éloge du vivant, prendre sa santé en main avec justement la médecine intégrative. L'éditeur, c'est Harbert Collins.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et mon invité ce matin, Isabelle Célestin Lopineau. Je rappelle que vous êtes psychologue, directrice de l'Institut français des pratiques psychocorporelles et que vous venez nous parler ce matin de Éloge du vivant, prendre sa santé en main avec la médecine intégrative. On en parle de cette médecine intégrative aux éditions HarperCollins. Quelle différence faites-vous entre la médecine intégrative et la santé intégrative ?
Alors la médecine intégrative, ça a été la première étape, le premier pas. Et la santé intégrative, c'est un terme, on parle de parcours de santé, beaucoup plus dans les hôpitaux ou même dans la médecine de ville. C'est vraiment le glissement de l'idée qu'on va prendre soin avec des pratiques complémentaires d'un patient qui présente telle ou telle pathologie, à l'idée que l'on va prendre soin du patient dans sa globalité, pas simplement s'occuper du problème et de la partie, par exemple, malade, mais aussi activer les ressources de santé, les ressources psychiques du patient pour activer les ressources. Et c'est aussi l'idée de la prévention. On s'aperçoit de plus en plus que plus une personne va développer un art de vivre, mais qui lui convient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui va fonctionner comme une autre. On sait qu'il va y avoir une prévention du stress, une prévention de certaines pathologies également liées au stress. Et puis, le troisième point, c'est la santé intégrative, c'est aussi personnaliser le plus possible le suivi des patients. On ajuste en fonction de la personnalité, de la pathologie bien sûr, mais aussi de la personnalité, du lieu de vie, de la culture aussi du patient.
Est-ce que vous êtes plus attentive à la souffrance des autres parce que vous-même, vous avez été une enfant malade ?
Alors c'est ce que je raconte dans le livre, à la demande de Harper et Collins, j'ai évoqué cet épisode-là.
Vous vouliez pas en parler ? Ça vous paraissait pas évident ?
C'est pas habituel, j'ai l'habitude d'écrire des livres ou des articles qui sont effectivement tournés sur le soin et sur les autres. Et puis là, finalement, j'ai été convaincue pour aborder justement cette question-là. C'est vrai qu'assez jeune, j'étais confrontée dans les hôpitaux, à la souffrance aussi d'autres enfants qui avaient des problèmes qui étaient même bien plus graves que les miens.
Mais pour en revenir aux vôtres, vous étiez un petit peu dans une inconnue de ne pas savoir ce que vous aviez. Il y avait une forme d'errance médicale quand même.
Voilà, je l'ai rencontré, ça me permet d'établir un pont, un lien avec des patients qui peuvent me raconter effectivement leur questionnement, leurs doutes, la difficulté quand on n'arrive pas à mettre de nom sur un problème, une pathologie. Et puis ensuite, dans mon expérience, ça a été en tant qu'enfant de voir le gap, la distance qu'il peut y avoir avec les soignants adultes et de voir à quel point il y avait beaucoup de choses à faire pour pouvoir accompagner les enfants. C'est là où est né mon envie vraiment de soigner. Et puis, la rencontre avec ce chirurgien a radicalement changé ma vie. Et ça, j'en ai gardé une gratitude forte.
Parce que vous êtes sortie de l'hôpital soignée.
Je suis sortie guérie,
oui.
Vraiment. Et ça, j'en ai une gratitude. Et j'ai trouvé que c'était un métier magnifique que de pouvoir donner son temps et partager son temps pour amener des personnes à se remettre dans le mouvement de la vie. Parce que moi, j'ai été remise dans le mouvement de la vie.
Là où je voulais vous en amener, c'est que vous êtes confronté à la douleur lors de ce séjour à l'hôpital. Et finalement, ça a beaucoup changé ces dernières années, la prise en compte de la douleur et de la façon dont on la prend en charge aussi.
Oui, la prise en charge de la douleur, alors moi je l'ai rencontrée enfant, et ensuite je l'ai rencontrée en travaillant dans un hôpital pour enfants, à l'hôpital Trousseau. Elle a beaucoup changé, ça a été aussi tout le travail très militant de certains médecins, je pense au docteur Hannequin ou d'autres médecins, qui ont amené à une prise de conscience de la nécessité de proposer de bons antidouleurs adaptés aux enfants, et puis une prise en charge aussi complémentaire, parce que quand on a mal, ça va engendrer du stress, quand on a mal, il va y avoir une fatigue, c'est un cercle vicieux, et donc important à la fois de traiter avec des médicaments, mais aussi avec des pratiques complémentaires pour pouvoir amener la personne à sortir de ce cercle vicieux douloureux.
Pour raconter que jusque dans les années 60, on pensait qu'un bébé n'avait pas mal, n'était pas sensible à la douleur finalement.
C'est ça, et il y a comme ça des fantasmes, des croyances qui ne sont souvent d'ailleurs...
Comme on le pense des personnes âgées aussi souvent.
Exactement, il y a plusieurs situations où on a sous-estimé, voire dénié la douleur, et on s'est rendu compte avec des études qu'effectivement, ça n'est pas parce qu'il n'y avait pas de réaction, il y a des enfants qui vont être ces enfants trop calmes, qui ne vont pas bouger, qui ne vont pas avoir de réaction, et pourtant qui ont très mal pour des enfants un peu plus âgés, et on voit bien que différentes populations pour différentes populations, on a sous-estimé la douleur, et il y a effectivement une prise en charge qui s'est améliorée. Il y a encore certainement des points d'amélioration, on le voit régulièrement dans les congrès, prendre en charge la douleur dans tel ou tel service. Il faut toujours rester vigilant et continuer ce côté aussi militant pour mettre en place les bonnes pratiques dans les services.
Oui, tout en sachant que le rapport qu'on a à la douleur est vraiment personnel. C'est chacun qui a un rapport à la douleur ou pas. Il y a des gens qui ont des seuils de tolérance qui sont différents de d'autres personnes.
Oui, c'est très juste. Chacun, la douleur, c'est...
C'est propre, c'est vraiment quelque chose de personnel.
Exactement, il y a des éléments qui sont sensoriels, mais il y a aussi des éléments qui vont être comportementaux, qui vont être émotionnels, et donc en fonction aussi de la personnalité et du seuil, comme vous le précisiez, de personnel de chacun, de tolérance. Et puis, il y a aussi des différentes façons d'y réagir. C'est-à-dire qu'il y a la sensation douleur, mais il y a aussi des personnes qui spontanément vont avoir des stratégies pour y faire face, puis d'autres qui ont besoin d'apprendre aussi certaines stratégies pour arriver à faire face à la douleur.
Et puis il y a ceux qui l'expriment et ceux qui ne l'expriment pas aussi.
Voilà.
La thèse, donc voilà.
Exactement, il y a vraiment une grande diversité dans la façon d'exprimer la douleur. Quoi qu'il en soit, on sait dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé que la douleur, quelle que soit la façon dont elle peut être exprimée, les soignants doivent la prendre en compte et la prendre en charge.
Vous avez décidé de vous former à l'hypnose médicale. C'est quelque chose de particulier, l'hypnose. Tout le monde aussi peut en avoir une vision parfois folklorique.
Oui.
Déjà, comment est-ce que vous la définissez? Comment est-ce que vous l'utilisez, cette hypnose médicale?
Alors, l'hypnose médicale et thérapeutique, c'est important d'intégrer. Voilà, c'est
médicale et thérapeutique.
Exactement, ouais. Parce que
ça défolklorise l'hypnose.
Exactement, parce que c'est vrai que quand on parle d'hypnose, on peut avoir tendance à avoir quelques images d'hypnose de spectacle. Et dans le soin, ça n'est pas ça. Ce sont deux choses différentes. Alors, l'hypnose, c'est une capacité naturelle. Ça, c'est le premier point qu'il faut retenir. Souvent, ça étonne les personnes, mais c'est une capacité naturelle. Quand on arrive en métro, en voiture, et qu'on descend, on rêvasse et on descend pour autant à la bonne station, à la bonne sortie. On est là et ailleurs en même temps. C'est déjà un léger état hypnotique. Et ce que nous faisons en hypnose, c'est potentialiser cet état où on est là et
donc là,
ailleurs.
Là, c'est de l'auto-hypnose plutôt.
C'est de l'auto-hypnose. C'est en cela que l'hypnose est une capacité naturelle. On a une capacité d'auto-hypnose. Quand on va voir un praticien, quand les patients viennent me voir pour arrêter de fumer, pour moduler une douleur, pour arriver à contrer une phobie, je vais utiliser l'hypnose, activer leur propre capacité d'hypnose pour qu'ils arrivent à faire un pas de côté et qu'ils fassent émerger d'autres stratégies pour faire face à la situation.
Donc chacun l'a en soi en fait.
Voilà, chacun l'a en soi. En tant qu'hypnothérapeute, moi je ne fais qu'activer cette capacité hypnotique et l'orienter. C'est-à-dire rentrer en état d'hypnose, c'est simple. Mais ensuite, qu'est-ce que l'on en fait? Là,
dormir les gens, contrairement à ce qu'on pense.
Et non. Ça, c'est ce qu'on imagine très souvent. C'est tout le contraire. C'est un éveil. C'est-à-dire, quand on est en état d'hypnose, on va ressentir beaucoup plus, percevoir beaucoup plus. C'est aussi ce que les études en neurosciences, d'ailleurs, montrent. Au niveau du cerveau, il y a plein d'aires cérébrales qui vont s'activer. C'est pas du tout du sommeil. On va s'imaginer quelque part. On va faire un mouvement. On va moduler la perception de la douleur. Et donc, c'est plutôt un éveil avec une activation, en fait, des différentes aires cérébrales.
Donc, en soi-même, on trouve les moyens de lutter d'une certaine façon, en tout cas contre la douleur, c'est ça ?
C'est ça. Tout le travail, lorsqu'on va voir un hypnopraticien ou un hypnothérapeute, c'est lors de l'entrée en hypnose d'explorer plein de pratiques différentes pour voir ce qui va permettre de moduler la perception de la douleur. Et on peut avoir des choses qui vont du côté, par exemple des inductions qui vont du côté de la relaxation, et puis des inductions qui vont du côté d'une image, tout d'un coup, que le patient va faire de sa douleur. Donc c'est très étonnant, le patient peut faire rendre sa douleur comme si c'était une couleur, une forme, un objet, modifier la couleur, la forme, et ça permet de moduler et parfois même de faire disparaître la perception de la douleur. Donc très étonnant. Ça va fonctionner...
Quel type de douleur, oui?
Alors, il y a plein de douleurs, à peu près sur tous les types de douleurs, on peut proposer l'hypnose. Simplement, on fera attention, quand une douleur est aiguë, c'est ce qu'on apprend à nos étudiants, hein, dans les formations en hypnose, c'est pas la peine de proposer aux patients. Alors maintenant, imaginez-vous dans un lieu de sécurité, tout tranquille, parce que si vous avez déjà eu mal, vous savez que quand on a très mal, se relaxer, c'est très difficile. Et quelqu'un qui nous dit « relaxe-toi », c'est encore plus difficile.
C'est pas facile à entendre.
C'est pas facile à entendre. Donc on aura des techniques qui sont un peu plus actives, un peu plus rapides, et qui vont permettre de moduler la douleur de façon différente. Mais ce seront des douleurs type les douleurs de migraine, les lombalgies.
C'est-à-dire qu'on peut agir sur une migraine, parce que si vous nous dites ça, il y a beaucoup de gens quand même qui sont très handicapés par la migraine, par les douleurs de migraine.
Oui. Bien sûr, et c'est aussi le but de mon livre, de diffuser cette information, parce que il y a énormément d'études qui montrent l'efficacité de l'hypnose et de l'auto-hypnose dans la prise en charge de la migraine, avec différents types de pratiques d'hypnose. Par exemple, quand le patient n'a pas mal, on va apprendre à ce moment-là, entre les crises, à utiliser une pratique qui va permettre d'apaiser, parce que parfois le stress va entretenir ou peut déclencher certaines crises de migraine. Mais quand le patient a mal, au moment de la crise, on lui aura appris d'autres pratiques qui vont permettre d'apaiser la douleur et de travailler directement sur la douleur en attendant que le médicament fasse effet, par exemple. Et les études montrent que l'hypnose est efficace, mais le plus efficace, c'est de transmettre et d'apprendre au patient à faire lui-même de l'auto-hypnose. Et ça, c'est vraiment...
Parce que sécurise, ça le...
Ça sécurise, et puis le thérapeute n'est pas forcément à côté du patient quand il va y avoir la crise de migraine. Donc du coup, ça donne un outil complémentaire au médicament pour arriver, alors soit attendre l'efficacité du médicament, soit travailler directement sur la sensation de la douleur elle-même. Et puis aussi, après la migraine, parce que les migraineux le savent bien, quand on a régulièrement des migraines, il va y avoir une fatigue qui se met en place, le mental aussi qui commence à s'emballer, c'est-à-dire quand on est migraineux, on va anticiper la prochaine crise de migraine. Donc l'hypnose va aussi permettre de travailler sur le fait de s'apaiser par rapport à tout cela, et là on est vraiment dans la santé intégrative, on transmet des outils aux personnes.
On fait une forme de diversion sur le cerveau, comment ça fonctionne ?
Oui, c'est un peu ça.
Enfin, l'auto-hypnose, pour qu'on comprenne bien comment ça agit.
C'est un peu ça.
On est plus focalisé sur l'endroit où on a mal.
Alors, ça fait partie des explications et puis de la pratique. Il y a une défocalisation, une distraction approfondie. Et puis, c'est aussi un travail qui va modifier le circuit de la douleur qui se met en place au niveau du cerveau. Ça, on le voit aussi grâce aux IRM et grâce aux études neuroscientifiques. Mais c'est effectivement un pas de côté. Combien de fois il y a des personnes pour des douleurs qui restent légères à moyennes, qui arrivent à contrôler en regardant un bon film, en écoutant une bonne émission de radio, on arrive à faire un pas de côté. Mais effectivement, dans d'autres cas, il faut utiliser des techniques qui vont moduler directement la douleur.
L'hypnose qui aujourd'hui a fait son entrée dans les salles d'anesthésie.
Oui, dans les salles d'anesthésie, et c'est même grâce au monde de l'anesthésie, beaucoup que l'hypnose s'est développée. On voit...
Pourquoi ça lui a donné pignon sur rue, on l'a prise plus au sérieux?
Alors je pense qu'effectivement, on voit dans un bloc opératoire la possibilité d'utiliser l'hypnose, d'arriver à moduler des douleurs, à diminuer le stress. Et les études, ce sont les anesthésistes qui ont commencé à faire beaucoup d'études d'évaluation de l'hypnose et qui ont pu aussi montrer qu'en dehors même de la prise en charge de la douleur, du stress, après des interventions chirurgicales, on s'aperçoit très souvent qu'il y a moins de saignements, par exemple, une récupération beaucoup plus rapide. rapide des patients qui ont eu un accompagnement hypnotique. Alors ça va être avec une anesthésie légère, ça évite dans certains cas l'anesthésie générale et une anesthésie légère associée à l'hypnose.
Vous racontez dans votre livre comment Milton Erickson, qui était alité, pendant des années, a compris les vertus de l'hypnose et ce qu'il pouvait en tirer sur lui-même d'abord.
Oui, c'est ça. Il est passionnant aussi dans ce sens, parce que lorsqu'on a un problème, et lui, il avait des problèmes qui étaient conséquents, qui étaient importants.
Il pouvait plus se déplacer,
Il était immobilisé. En fait, quand on a un problème, mais d'une certaine façon, on peut élargir à d'autres situations. Dès qu'on a un problème, on s'immobilise, on se fige, et on va fonctionner dans un schéma qui va se rigidifier. Tout le travail de l'hypnose, et même d'autres pratiques complémentaires, ça va être, comme vous le disiez, de faire un pas de côté, mais ça va être aussi de remettre du mouvement et de lâcher la représentation que l'on a pour pouvoir faire émerger d'autres ressources. Et Milton Erickson, justement, a montré que tout ça était naturel. On a besoin de passer par l'altérité, souvent de passer par un médecin ou par un thérapeute, par quelqu'un qui va accompagner, mais toutes les ressources sont dans le patient.
Lui, il avait observé des enfants, des jeunes enfants qui marchaient, en fait.
Oui, c'est ça. Il a observé les enfants qui marchaient. Il a vu
faire leurs premiers pas, tomber, se relever.
Voilà, c'est en observant la vie, finalement, et comment on reste en équilibre dans la vie et comment on recherche cet équilibre qu'il a développé cette pratique. Après, il y a d'autres grands hypnothérapeutes qui ont permis d'aller un petit peu plus loin aussi. Alors en Russie, Bakhtiev, qui a travaillé beaucoup dans le domaine de l'addiction et de l'alcoolisme et qui a montré justement comment, de façon parfois rapide, c'était intéressant de faire entrer quelqu'un en transe, et même que la transe en elle-même était thérapeutique sans même qu'il y ait des suggestions. Et puis chez nous, François Roustan, qui a fait évoluer la réflexion sur l'hypnose.
Que vous citez beaucoup, François Roustan.
Oui, j'ai eu la chance de travailler avec lui, de le connaître.
On sent qu'il y a de l'admiration.
Oui, François Roustan, j'ai une grande admiration pour lui. Ça a été un plaisir de le rencontrer, de discuter avec lui. J'ai beaucoup échangé sur les voyages anthropologiques que j'ai pu faire et sur l'hypnose. Et je crois que ce qui est appréciable chez François Roustan, c'était à la fois évidemment sa grande capacité clinique, sa grande intelligence et sa capacité à ne pas faire école. C'est ça, moi, qui m'a fascinée. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui ne voulait pas être mis en position de maître et qui poussait les élèves à réfléchir. Et je crois que quand on parle de soins, quand on parle de ces pratiques...
Mais de pas de gourouisme.
Exactement. Pouvoir penser par soi-même, et c'est aussi très important qu'un praticien, un thérapeute, soit dans cette posture-là avec un patient, de l'amener à penser et à choisir ce qui est bon pour lui, par lui-même.
J'entendais Raphaël Enthoven ce week-end à la radio qui disait que si on croyait penser par soi-même, c'est qu'on pensait tout seul. À réfléchir.
Bien sûr, l'altérité reste essentielle.
Bien, éloge du vivant, on en parle ce matin et on parle de cette médecine intégrative que vous êtes de plus en plus nombreux à revendiquer jusqu'à 10h.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et mon invité est Isabelle Célestin, l'hôpital. Je rappelle que vous êtes psychologue, directrice de l'Institut français des pratiques psychocorporelles, qui s'adresse à des patients qui présentent plusieurs pathologies. Quel est le parcours des gens qui viennent vous voir finalement ?
Alors, ce sont des parcours multiples. La plupart du temps, les personnes qui viennent nous voir ont vu leur médecin généraliste ou leur spécialiste, ont exposé leurs problèmes, et c'est le médecin ou le spécialiste qui va les adresser chez nous pour, de façon complémentaire, avoir des séances de yoga, de méditation, d'hypnose, de qigong, parfois. Lorsqu'un patient qui a une pathologie ou une douleur inexpliquée vient nous voir et n'est pas passé par la case médicale, nous, notre rôle, évidemment, c'est de lui proposer d'aller voir le médecin et de consulter. Mmh. On a des patients qui viennent aussi d'eux-mêmes, parce que nous ne traitons pas que, de façon complémentaire, les pathologies ou les douleurs. Nous voyons aussi des patients qui viennent pour des problèmes psychologiques, de phobie, de dépression, de stress, de gestion des émotions, les addictions. addiction aussi. Et donc, les patients nous consultent et vont faire un suivi thérapeutique avec ces pratiques. Enfants, adultes, adultes plus âgés, on peut recevoir et proposer ces pratiques en les adaptant, bien sûr, en fonction de l'âge.
Alors, par exemple, ça va parler à beaucoup de gens, hein, vous développez un programme pour les malades qui présentent ce qu'on appelle des troubles de fonctionnement intestinaux, les fameux TFI.
Oui.
Là aussi, on en parle beaucoup des TFI. Comment est-ce que vous les prenez en charge ?
Alors ça, c'est une collaboration, un travail de recherche-action que nous avons mis en place avec le professeur Sabaté, qui travaille à l'hôpital de Colombes. Et donc, nous avons travaillé ensemble, nous avons réfléchi comment nous pourrions proposer le meilleur parcours de santé aux patients présentant des TFI, avec l'association d'ailleurs qui, l'association de patients, la PSI. Et donc nous avons proposé des groupes d'auto-hypnose qui permettent aux patients d'apprendre pendant 1h30 différentes pratiques d'hypnose pour arriver à soulager l'inconfort ou la douleur qu'ils peuvent ressentir. Alors l'intérêt des groupes et de l'auto-hypnose, c'est que les patients sont souvent assez seuls dans leur problématique. Ben là, ils rencontrent d'autres patients, ils peuvent parler, changer des stratégies. Et puis l'auto-hypnose, les différentes recherches ont montré qu'il y a une efficacité de l'hypnose et de l'auto-hypnose pour ces troubles fonctionnels intestinaux. Donc ils apprennent plein de pratiques qu'ils mettent en place. Et nous voyons l'efficacité, et l'équipe de Colombes a bien vu l'efficacité, parce que ces patients ont moins d'inconfort, moins de fatigue, s'autonomisent plus. Et le grand plaisir qu'on a, c'est quand ils sortent de nos séances, ils vont à la brasserie à côté et ils partagent un repas ensemble. Ce n'est pas évident, la question des repas, quand on a un trouble fonctionnel intestinal. Ils se remettent dans la vie, ils se remettent à socialiser, et là, c'est gagné.
Mmh. On intervenait aussi sur les troubles du sommeil, enfin, sur beaucoup de troubles d'aujourd'hui, comme on dit. On parlait de maladies chroniques aujourd'hui. Mais est-ce que ces maladies sont chroniques parce qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique a de quoi les prendre en charge, et on en parle de plus en plus, finalement, ou ce sont des maladies de société ?
Alors on voit effectivement différentes pathologies ou différents problèmes
se chroniciser, comme on dit
voilà,
aujourd'hui.
Voilà, se chronicise, on voit quand même un effet du fonctionnement de société, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a différents types de troubles du sommeil, mais quelqu'un qui va avoir un stress important, quelqu'un qui rentre dans le burn-out, et on voit qu'il y a de plus en plus de personnes stressées, de plus en plus de personnes qui vont rentrer dans un burn-out, vont avoir des troubles du sommeil. On a une hygiène de vie qui peut être difficile à maintenir, à mettre en place dans nos emplois du temps surchargés. On a aussi un mental qui est de plus en plus sollicité. On a peu de temps pour avoir des temps de pause, où on s'autorise même parfois peu de temps de pause. Donc ça va avoir une action sur le sommeil. Donc effectivement, notre fonctionnement de la société, avec une cadence de plus en plus importante, une surstimulation permanente, peut engendrer un peu plus de stress, et puis toutes les pathologies qui vont autour du stress, les troubles du sommeil ou d'autres troubles liés au stress.
Qu'est-ce qui vous reste de vos initiations à la transe vaudou ? Et aujourd'hui, comment est-ce que vous l'appliquez ?
Alors c'est ce que j'explique quand je parle de cette expérience.
Ça m'a beaucoup intrigué, ça, finalement.
Donc j'explique
quand
toujours.
Quand on est rationnel, là, vous voyez, quand on parlait de l'œil de l'étranger...
Mais c'est là justement que j'ai pris conscience et que j'ai entendu ce proverbe ghanéen, parce que j'ai mis un temps fou à pouvoir lâcher ce que je voyais et pouvoir comprendre d'autres choses qui m'étaient expliquées par le guérisseur avec qui je travaillais. Moi, ce qui me reste, alors déjà, ça m'a amené à définir les choses. Qu'est-ce que la transe ? La transe, parce que j'ai vu des transes magnifiques, en mouvement, dans une sensorialité incroyable. Ça m'amène à définir la transe, et la transe, c'est passer un seuil. Et il faut se poser la question, quel seuil il faut passer ? C'est lâcher le fonctionnement habituel, rationnel, pour ouvrir les perceptions et percevoir autrement. Et ça m'a beaucoup appris. Moi, ce que j'ai pu y découvrir, que j'ai retrouvé après, hein, d'une autre façon, avec une couleur différente culturelle en Sibérie avec les chamans, c'est un process finalement de soins, de thérapie. Quand il y a un soin, le patient va être amené dans une géographie sacrée. Il va y avoir un espace, l'espace du profane, et il y a l'espace du sacré. Et il faut passer ce seuil-là. Ensuite, il va y avoir les villageois, les amis. On n'est pas seul dans le soin vaudou. Il y a vraiment toute la famille, tout le groupe qui est là. Il y a toute la sensorialité, il y a des odeurs. Il va y avoir le rythme des tambours, il va y avoir les danses. Une ouverture de la sensorialité. Et j'ai pris conscience en voyant ces rituels que ceux qui rentrent en transe finalement vont être amenés à relier tout, le monde humain, le monde naturel, le monde des esprits, et plus important encore, c'est que tous ces mondes, au moment où le patient rentre en transe, sont reliés. Et ça, ça parle quand on s'intéresse au phénomène de la conscience, au phénomène de la transe, au phénomène de l'hypnose. Quand on ouvre les perceptions, on déclive dans notre esprit. Il y a des études qui parlent beaucoup du flow. On cherche justement à stopper les clivages qui nous permettent de comprendre le monde. Et... Mais là, on les enlève pour ouvrir les perceptions et activer le plus possible les ressources. Et ça, j'en ai gardé quelque chose. Alors évidemment, dans nos cabinets, je ne me mets pas à utiliser le tambour, je ne vais pas tourner, je ne fais pas
derviche tourneuse
non,
encore.
Non, je ne fais pas de sacrifice non. animal, mais j'utilise largement cet état d'esprit qu'une personne arrive immobilisée dans sa pathologie, et mon rôle est de remettre le patient en lien avec tout ce qui l'entoure.
Pour ceux qui ont votre livre, il y a cet exemple de femme qui arrive avec une jambe cassée, ça c'est surprenant.
Oui, oui, magnifique.
Oui, c'est...
Une dame qui avait la jambe cassée, qui est... Alors, le parcours de soins, c'est aussi ce que décrit l'OMS, il est logique. En premier, elle est allée à l'hôpital, cette femme. Elle a été soignée, puis à un moment donné, ça guérissait pas. Donc, elle est allée voir, naturellement, un tradipraticien. Ce tradipraticien est allé chercher un co-thérapeute qui traînait au milieu du village, un poulet, et il a... Cassé la
jambe du poulet, la patte du poulet. Ouais.
Et il a soigné le poulet pendant des jours, et ensuite, il soignait la dame. Et le jour où ce poulet a consolidé sa jambe, la dame a lâché ses douleurs. Et ça interroge, parce que c'est très étonnant.
Ah voilà, je vois la tête, ça interroge.
Ça interroge. On n'a pas une explication complète, mais on voit bien à quel point ça peut toucher des explications qu'on a en hypnose. Évidemment, en hypnose, il n'y a pas ce genre de pratique du tout, soyons clairs. Mais en hypnose, quand je vous parlais tout à l'heure de votre douleur, vous pourriez l'imaginer comme un objet, vous pourriez l'imaginer comme une couleur, ou peut-être comme un animal. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer la couleur ou la forme de l'objet ou cet animal? Est-ce qu'il pourrait bouger? On n'est pas si loin. C'est-à-dire qu'il y a une projection de la douleur à l'extérieur, on la modifie, et ensuite, quand elle est introjectée, il y a une modification, une possible modification de la perception douloureuse. Ça interroge sur l'effet, sur ce qui est au cœur psychologiquement de ce type de pratique, et puis somatiquement aussi.
Est-ce que la médecine moderne arrive aujourd'hui à admettre ses limites ou pas?
Alors la médecine...
Est prête justement à la médecine intégrative dont vous parlez?
Moi je le crois, que la médecine moderne...
On rappelle, c'est marcher la main dans la main, c'est pas l'une à la place de l'autre, non. C'est d'abord la médecine moderne, comme on dit, avec en complément une médecine traditionnelle, il faut l'appeler comme on veut, douce.
Moi, je crois que la médecine... Alors, moi, je dirais pas douce, parce que c'est pas forcément, ce ne sont pas forcément des pratiques douces. Ça, c'est aussi un fantasme que l'on peut avoir. Quand un patient change, c'est pas forcément quelque chose de doux. Lâcher la souffrance, lâcher... n'est pas forcément quelque chose qui passe par la relaxation. Mais je pense que la médecine, elle est prête depuis des années, et c'est grâce à elle que les choses bougent et que les pratiques rentrent à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, bien sûr qu'il y a des critiques, et elles sont utiles aussi, ces critiques, ce sont des garde-fous de pouvoir interroger aussi ces différentes pratiques. Mais c'est parce que beaucoup de médecins ont intégré dans leur service l'hypnose, la musicothérapie, le yoga, que les choses
bougent. Alors vous en listez 11, ces 11 que vous listez, ce sont celles que la médecine en tout cas les autorités de santé identifient.
Alors j'en ai listé 11, en fait il y a énormément de pratiques complémentaires, j'ai listé celles qui avaient fait l'objet de recherches scientifiques, parce que justement pour travailler main dans la main, comme
donc, l'exercice d'hypnose, la sophrologie, la méditation, le yoga, le qigong, la musicothérapie, donc c'est très important de faire le top 10 des chansons qui vous font du bien.
Exactement.
J'ai testé les vôtres. Bon, enfin, c'est pas les vôtres, en fait. Hein,
mais... Non, c'est un groupe, ce sont des Américains, donc on ne retrouve que des chansons américaines. Mais ce que je propose dans le livre, c'est de faire sa propre liste, parce qu'il y a bien d'autres chansons. C'est-à-dire, ce sont les chansons qui nous permettent, et les chansons, tout de suite, on est dans le flow. Tout de suite, on se sent bien. Et ces chansons-là, ben, ça peut être intéressant de les écouter le matin ou de les écouter quand il y a besoin dans la journée pour faire une petite pause.
Alors, il y a les massages, l'ostéopathie, l'acupuncture, l'auriculothérapie, donc là c'est de l'acupuncture dans les oreilles.
Voilà, c'est une stimulation du lobe des oreilles qui est très efficace aussi dans la prise en charge de la douleur ou du stress.
Et puis la phytothérapie.
Et la phytothérapie et le biofeedback, voilà. Et c'est pratique, il y en a d'autres, mais pour pouvoir avancer dans la médecine intégrative, il faut effectivement que ceux qui utilisent les pratiques complémentaires les proposent, acceptent l'évaluation scientifique, et les médecins qui intègrent ces pratiques intègrent des pratiques qui sont évaluées scientifiquement.
Ces 11-là ont été évaluées scientifiquement, voilà.
Avec des niveaux de scientificité différents, c'est ce que j'ai montré dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques où on va trouver des méta-analyses, où on va trouver des recherches randomisées, c'est-à-dire qu'il va y avoir des groupes contrôles avec une distribution au hasard, et puis d'autres recherches où on va avoir des single cases. Mais j'ai souhaité cependant lister toutes ces pratiques pour montrer qu'il y a un effort pour comprendre et pour évaluer scientifiquement, et qu'il y a encore un grand chemin à faire pour continuer à évaluer certaines pratiques.
Voilà, avec leurs effets thérapeutiques, donc, dans le temps, des exercices aussi que vous proposez à chaque fois.
Voilà, des exercices. Les effets thérapeutiques dans le temps, c'est important, parce que parfois, on recherche une pratique qui va être immédiate, hein, soulager la douleur, soulager le stress, le diminuer. Et puis, dans tout ce qui est chronique, c'est vrai que c'est à moyen terme ou à plus long terme qu'on va avoir besoin d'une efficacité. Donc ça, je le décris. Et puis les exercices, comme je me situe vraiment dans cette idée de santé intégrative, j'avais envie de les transmettre. Ce sont des exercices qui peuvent être abordés, qui sont faciles et qui peuvent rendre service. Je les ai tous testés, moi, dans différentes situations.
D'accord. J'ai fait tous les exercices de yoga qu'on a dans le livre.
Voilà. En fait, je ne propose aux patients que des choses que j'ai testées. Par exemple, quand je parle d'auto-hypnose, je vais proposer des séances qui sont courtes, parce que qui a le temps de faire une demi-heure, une heure d'auto-hypnose chaque jour ? Peu de personnes. Et donc, je propose plutôt des exercices que j'ai testés et qui permettent de rentrer rapidement dans cet état-là. Méditation, pareil. Il y a des méditations qui peuvent être longues et qui sont très intéressantes. Mais il peut aussi y avoir des exercices de présence qui permettent de revenir dans un équilibre, dans une présence à soi, sans que ce soit trop long, par exemple. Et puis, le yoga, pas besoin dans le métro de faire la position du lotus, par exemple. On peut utiliser.
En mois d'août, il y a moins de monde, donc, mais bon.
On peut tester. Mais c'est vrai qu'on peut faire des exercices respiratoires simples à mettre en place. Et on sait que la respiration va avoir un potentiel pour diminuer le stress et même certaines douleurs fort avec la stimulation du nerf vague. Enfin, toutes les dernières recherches qui montrent l'intérêt de ces techniques.
Bien. Et puis, il y a ce que vous appelez les 6 invariants du soin. Donc, c'est les états de conscience modifiés dont on a parlé. Donc, l'hypnose est un état de conscience modifié.
Voilà, l'hypnose est un état de conscience modifié. La méditation, on est dans une autre présence à soi. Le yoga, on va le retrouver dans nombre de pratiques. L'intérêt de ces états de conscience modifiés, c'est de faire un pas de côté. Quand on est bloqué sur un problème, on répète toujours la même chose, même quand ça ne marche pas dans certains cas. L'état de conscience, c'est le modifier, c'est le pas de côté qui va permettre de voir différemment, de faire émerger d'autres pratiques.
Apprendre à manier la respiration, donc là on le dira toujours, l'importance de bien respirer.
Voilà, la respiration, ça tombe bien, on l'a toujours sur soi, donc c'est une pratique simple à mettre en place, juste l'observer.
Il y a beaucoup de gens qui respirent à l'envers et qui ne le savent pas.
Oui, alors c'est bien de connaître comment on respire, mais déjà, même si on respire à l'envers, juste prendre conscience de sa respiration sans chercher même à la modifier, c'est déjà faire un pas de côté. C'est déjà une stimulation du nerf vague, c'est déjà une façon de s'extraire d'une situation. Après, il y a des techniques qui vont permettre d'aller plus loin, de se relaxer, des techniques qui vont aussi permettre de s'activer, parce qu'on n'est pas toujours... La santé intégrative, hein, c'est pas toujours du côté de l'apaisement ou de la relaxation. Parfois, c'est très utile de pouvoir avoir des techniques qui permettent de faire face et de s'activer dans certaines situations.
La posture d'ouverture, qu'est-ce que vous appelez la posture d'ouverture ?
Posture d'ouverture, c'est vraiment ouvrir le thorax, respirer, sentir sa respiration. Ça, ça vient des recherches qui ont été faites aussi, il y a plein de recherches sur ce sujet-là. Je ne sais pas si vous connaissez la posture de Wonder Woman.
Voilà, c'est ce que vous expliquez dans votre livre.
Posture de Wonder Woman, c'est ce que j'ai découvert en premier. Et puis ensuite, je vais expliquer posture d'ouverture beaucoup plus importante. C'est le travail d'Amy Cuddy aux États-Unis, qui travaille à la Harvard Business School et qui a montré que quand on prend une posture à la Wonder Woman, on s'installe bien, un pied en avant, les mains sur les hanches, on va sécréter beaucoup plus de testostérone, que l'on soit d'ailleurs homme ou femme.
Oui, parce que j'allais vous dire, oui, la testo...
Oui, sans risque secondaire. Hein, bon. Pour les.
Il n'y a pas trop de poils qui vont pousser
non,
chez
non,
les
non.
femmes.
Mais ça donne en fait plus de confiance en soi. Et il y a des chercheurs européens qui se sont dit, bon, c'est intéressant, mais c'est quand même une posture de puissance. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres postures qui permettent justement d'être dans un bon équilibre sans être dans cette posture de puissance? Et ils ont montré que le yoga ou certaines méditations avec une position où le dos est droit, le thorax ouvert, une respiration qui est libérée, finalement amène plus de confiance en soi qu'une posture de puissance. C'est magnifique.
Comment on nourrit ses forces de vie au quotidien ? Qu'est-ce qu'on mange ?
Alors, ces forces de vie au quotidien, bah, ça passe, oui, par l'alimentation. Alors, il y a plein de choses. Il y a des conseils qui ressortent de plus en plus, notamment une grande méta-analyse sur nutrition et cancer avec l'idée de la prévention qui est sortie il y a quelques mois, qui montre que c'est une alimentation variée, c'est important. Ni excès, ni orthorexie. Enfin, les personnes qui vont être complètement focalisées sur leur alimentation, c'est de pouvoir limiter tout ce qui est industriel et de favoriser un petit peu plus effectivement quelque chose que l'on fait soi-même, c'est de diminuer le sucre et le sel. Et puis bonne nouvelle, c'est de pouvoir aussi consommer un petit peu de chocolat qui va amener du magnésium. Ça va être de manger en couleur, par exemple, parce qu'on sait que les légumes et les fruits jaunes, oranges, rouges, bleus vont amener justement un petit peu plus de vitamines.
Bleu, on en parlera des bleus. En tout cas, effectivement, c'est du bon sens et la suite est dans votre livre. Alors, je rappelle, Éloge du vivant, prendre sa santé en main avec la médecine intégrative aux éditions HarperCollins. Et cette émission, vous la retrouvez sur la chaîne YouTube de Beurre FM et en podcast. C'était un vrai plaisir de vous avoir ce matin. Bonne journée.
Plaisir partagé, merci.
Retrouvez à votre santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.